sa conférence. Donc c'est le 14 mars 2024, Nicolas Bouchard. Y a-t-il une accélération du temps? Je lui laisse la parole.
Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Donc, y a-t-il une accélération du temps? Et donc, la première chose remarquable, c'est que cette question, de poser la question de l'existence d'une accélération du temps, n'est en fait jamais posée. Alors que la notion d'accélération du temps, elle est extrêmement présente dans notre société. C'est-à-dire que, et la question, soit cette accélération du temps est prise comme une évidence. Et donc cela ne fait pas question. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'individus qui se sentent pris par le temps, qui se sentent pressés par lui, que nier l'accélération du temps apparaît comme une négation de la souffrance ressentie par ces individus. Et donc, du coup, on ne peut pas quasiment poser la question. Ça serait, à cet égard, c'est peut-être le symbole d'une époque où le ressenti a pris le pas sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est une partie des gens qui ne posent pas la question, soit à l'autre extrémité du spectre, l'expression accélération du temps est immédiatement jugée comme absurde. C'est-à-dire que le temps humain reçoit une mesure stable, il peut être divisé en instants identiques, qui se valent tous. Et donc ces instants, par définition, ne peuvent pas accélérer. Au plus, on admet dans ces cas-là un sens un peu métaphorique, mais le temps lui-même n'accélère pas vraiment. Donc il y a un refus de considérer la question. Et il s'agit peut-être de voir pourquoi. Alors, on va peut-être essayer de faire quelques remarques liminaires sur ce qu'est le temps. Alors il ne s'agit pas de le définir. Je crois que vous êtes des lecteurs émérites de Saint-Augustin. Et donc voilà, vous savez qu'on sait tous ce que c'est, mais on n'arrive pas bien à le définir. Néanmoins, il s'agit quand même de circonscrire rapidement ce dont on parle. Donc on peut appréhender le temps comme l'enchaînement des événements, comme ce par quoi on va pouvoir constater le changement. Et dans ce cas-là, le temps apparaît comme le milieu, la trame des événements. Ça, c'est la première grande, je vais dire définition, même si le terme n'est pas... En tout cas, le premier pôle d'appréhension du temps. C'est également, on peut le définir aussi, comme un changement perpétuel, continu et ressenti. Et donc très sommairement, il y a une vision externe, mathématique du temps, d'un côté, et une vision interne, ressentie du temps. Mais même comme cela, même en ayant circonscrit ces deux visions du temps, on voit mal comment il pourrait y avoir une accélération du temps lui-même. L'accélération, ça allait de plus en plus vite. Ce ne peut pas être le temps, a priori, qui accélère. Le temps, il mesure l'accélération de quelque chose. L'exemple, la voiture. Le temps mesure l'accélération de la voiture. Je suis passé de 30 km/h sur le périphérique lillois à 130 sur l'autoroute pour venir ici. Bon, bah, voilà. Le temps ne fait que mesurer l'accélération de la voiture. Donc, dans une conception interne du temps, et donc ça c'est pour la conception externe, et dans une conception interne du temps, pardon, le temps est mon vécu, et il est incommensurable, il s'écoule, mais s'il s'écoule, on ne peut pas dire qu'il accélère, c'est mon vécu, on peut pas, vu qu'il est incommensurable, on peut le mesurer à rien. Donc c'est ma durée, cette durée n'accélère pas. Éventuellement, on pourrait imaginer que la rencontre de la vision externe et de la vision interne conduise à une accélération. Mon ressenti du temps qui rencontrerait un temps mesurable entraînerait quelque chose. Mais même le terme accélération n'est pas le bon mot. Éventuellement, je peux ne pas me sentir dans mon temps. C'est-à-dire, me sentir déphasé par rapport au temps. Donc, il peut y avoir une anachronie, mais pas d'accélération. Et cette anachronie peut me conduire à accélérer, mais là encore, ce n'est pas le temps qui accélère. C'est ma pratique. Je vais devoir faire les choses plus vite. Je me rends compte que le temps file et qu'il va falloir que je me mette à parler comme un robot si je veux pouvoir vous dire tout ce que j'ai à dire. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une accélération du temps. Et pourtant, ce qui est ressenti, c'est bien que le temps lui-même passe de plus en plus vite. Et c'est un phénomène qui est presque universellement constaté. C'est-à-dire que, je dis pas qu'il y a sûrement des gens qui doivent considérer que le temps ne passe pas de plus en plus vite, mais socialement, on se rend compte que les individus dans la société se sentent de plus en plus pressés par le temps. Le fait qu'on semble avoir de moins en moins de temps pour faire ce qu'on a à faire semble presque généralisé dans nos sociétés. Et ce qui revient lorsque les gens parlent, ils ne disent pas qu'ils sont pressés par le temps. Dans ce cas-là, ça serait peut-être, ça correspondrait à ce qu'on a dit sur nos actions qui accélèrent. Mais ce qu'ils disent, c'est que le temps lui-même file de plus en plus vite. On dit, voilà, c'est déjà le printemps. Vu l'automne qu'on a eu, on dit vivement, on va enfin le printemps. Mais en tout cas, alors, soit on considère que c'est un abus de langage, mais quand même, cet abus de langage serait généralisé à l'ensemble de la société. On pourrait dire aussi que c'est une résistance à la rationalité, mais ce serait très étrange que l'ensemble des individus résistent à une analyse rationnelle. C'est-à-dire que voilà, on est forcé de reconnaître qu'on ne cesse de courir après le temps. Et d'ailleurs, si ce n'était qu'un abus de langage, cette accélération du temps ne serait pas aussi généralement ressentie comme négative. Voilà. D'où la problématique que je proposais, à savoir comment expliquer que nous ressentions tous l'accélération du temps, alors que celui-ci est objectivement régulier et stable, et sert davantage à mesurer l'accélération. Et à cette question, il y a une seconde question presque immédiate qui vient, puisque l'accélération est presque toujours ressentie comme une souffrance, c'est-à-dire que l'opinion commune ne se réjouit jamais du fait que le temps accélère. Pourquoi cette accélération conduit-elle à autant de souffrance? Donc c'est ce qu'on va examiner, et on va examiner ça avec une première partie, à savoir déjà ce que j'ai posé très rapidement en introduction, en disant que presque tout le monde ressentait le temps, donc le sentiment que le temps accélère est-il réellement universel? Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord questionner cette impression commune que le temps accélère. Or, il y a là quelque chose d'étrange, parce que ce qui documente l'accélération du temps, c'est toujours le ressenti. On en reste apparemment au ressenti des gens. C'est un ressenti personnel. Le jeune se presse parce qu'il a hâte et qu'il veut rentrer dans la vie. Le plus vieux se presse parce qu'il se rend compte que son temps est réduit avant sa finitude. Mais dans tous les cas, on en reste au ressenti. Donc si c'est un ressenti, ça ne devrait pas être généralisé. On a tous nos ressentis particuliers. Voilà. Et à l'inverse, si l'accélération du temps est la chose du monde la mieux partagée, dans ce cas-là, ce n'est plus un sentiment. Ça devient un fait objectif. Alors, il s'agit donc de se poser la première question, c'est est-ce que l'accélération du temps se situe au niveau du sentiment, du ressenti? Est-ce que ce n'est qu'une affaire de subjectivité? C'est-à-dire que si, donc c'est la première partie, si l'accélération du temps est véritablement subjective, si elle n'est qu'affaire de ressenti, rien ne devrait empêcher qu'elle soit perçue positivement. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est quand même très étrange que tout le monde l'aperçoive. C'est-à-dire que l'accélération, la vitesse, deviendrait alors une valeur. Une valeur positive ou négative, mais une valeur. Et ce n'est d'ailleurs qu'à cette condition, qu'à la condition que l'accélération devienne une valeur, qu'elle peut devenir un sentiment. Un sentiment, on le juge très rapidement comme étant positif ou négatif. Donc il devient très vite une valeur. Or, c'est justement ce que propose le mouvement littéraire et culturel qui est le futurisme. Le futurisme, c'est un mouvement qui a été lancé par quelques intellectuels italiens, des écrivains principalement d'avant-garde. Et le futurisme se propose de rejeter la tradition et de glorifier la vitesse. C'est ce que propose Marinetti. Donc Marinetti, qui était le chef de file du futurisme dans le texte 1. Voilà, l'idée, hein, nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. La vitesse devient glorifiée, et voilà, l'idée, c'est le point 5 du manifeste, hein, nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite. Autrement dit, il s'agit d'accélérer la Terre et d'accélérer l'homme également. C'est-à-dire que l'objet, donc, je disais, rejeter la tradition, glorifier la vitesse. Et ce que proposent les futuristes, c'est en fait un changement anthropologique. Ils aimeraient bien adapter les hommes, aux nouvelles technologies. Donc, c'est une glorification principalement esthétique, mais pas que. C'est donc de la vitesse, du dynamisme. Les réalisations les plus intéressantes du futurisme, à mon sens, c'est dans la peinture. Dans la peinture, il y a justement la tentative de rendre compte picturalement de la vitesse. Alors, certes, il n'y a pas d'affirmation par Marinetti que le temps accélère. Néanmoins, l'idée qu'il faudrait accélérer le temps, elle est plus que futuriste. Enfin, je crois que ça devait être le rêve absolu de Marinetti. En faisant de la vitesse une valeur en soi, voire même la seule valeur qui vaille. C'est-à-dire que la vitesse, c'est à la fin, c'est pas la vitesse pour faire plus de choses ou la vitesse pour aller plus vite à son but, c'est la vitesse pour la vitesse. C'est ça l'objectif de Marinetti, c'est la vitesse pour la vitesse. Il n'y a plus de mesure autre que l'accélération. L'accélération est la seule chose qui compte. Au fond, on pourrait presque dire que il y a une accélération du temps qui va tellement loin que le temps lui-même se dissout dans l'accélération. Il n'y a plus que l'accélération. Accélération de tout, donc du temps y compris, mais entre autres choses. Et d'ailleurs, c'est parce que l'accélération devient la seule chose qui compte, c'est parce qu'on cherche la vitesse pour la vitesse, qu'il faut détruire la tradition. En fait, les deux, j'ai présenté ça comme deux objectifs, en fait, c'est le même. Puisque la tradition, la référence à un temps autre que celui de l'accélération permanente, est une entrave au culte de la vitesse. Si je commence à me référer au passé, à la victoire de Samothrace, ça m'empêche de pleinement ressentir la vitesse. Mais chez Marinetti, cette valeur de la vitesse, elle est avant tout subjective. Lui, il la ressent, son groupe futuriste la ressent. Et l'enjeu du futurisme, justement, ça serait de construire l'homme de la vitesse. C'est-à-dire que pour accélérer le temps, il faudrait vivre vite. C'est presque un volontarisme du sujet. Donc on reste vraiment sur un point de vue subjectif de l'accélération du temps. Et d'ailleurs, Marinetti, dans les différents manifestes qu'il a produits, n'arrête pas de se mettre en scène en opposition avec des paysans attardés qui, eux, vivent le temps traditionnel et qui sont presque une opposition à l'accélération de la vitesse. Donc, même positif chez Marinetti, l'accélération du temps est un sentiment. Alors, certes, le futurisme travaille d'une certaine manière à ce que ce ressenti devienne objectif, mais il n'est qu'un sentiment. Et dans ces conditions, on peut se poser une question qui est pourquoi le futurisme, c'est un mouvement qui dure très peu de temps. Il naît en 1909, puis déjà dans les années 20, il a quasiment... Marinetti est encore, il est devenu dignitaire fasciste, président, enfin pas président, mais dans l'Académie des Beaux-Arts. Mais bon, il n'y a plus vraiment de créativité futuriste à ce moment-là. Donc, le mouvement dure très peu de temps, et globalement, c'est une impasse, c'est un échec, il n'arrive pas à faire tache d'huile. Donc, pourquoi il y a eu un échec du futurisme? Certes, il y a l'élitisme. C'est-à-dire que, voilà, conduire le plus vite possible une automobile en 1909, c'est pas donné à tout le monde. Mais dans ce cas-là, si c'était juste une question d'élitisme, quand les techniques se sont démocratisées, à partir de la Ford T, puis encore plus dans les années 60, pourquoi le style de vie futuriste ne s'est-il pas répandu? C'est parce que chez les futuristes, et presque symptomatiquement chez Marinetti, il n'y a pas de prise en compte des conditions sociales. À aucun moment, il n'y a une prise en compte de la société. Vous voyez, il s'oppose de manière très caricaturale aux paysans attardés, et c'est tout. Ça ne va jamais beaucoup plus loin. Or, les conditions sociales, les conditions de vie, notre vie sociale, changent l'appréhension du temps. Et donc, forcément, la perception de l'accélération. C'est-à-dire que, dans des conditions moins favorables, l'accélération est tout de suite perçue comme une souffrance. Pourquoi ? Eh bien, parce que le sentiment de l'accélération du temps, il est lié en fait à la dépossession du temps. C'est parce que le temps ne nous appartient plus que l'on est soumis à une accélération subie, et comme on l'a subie, ben, forcément, on en souffre. Et ceux qui ont poussé le plus loin l'analyse de ce sentiment de l'accélération du temps, ce sont les situationnistes. D'ailleurs, en actant l'échec des... Voilà, le chef de file, on est dans des avant-gardes, donc à chaque fois, il y a un chef de file qui se prend un peu pour un gourou. Donc ça, c'est Marinetti, et le chef de file des futuristes, des situationnistes, c'est Debord. Et dans les premières... Debord, D-E-B-O-R-D. Réflexe de prof. les premiers textes qui actent la fondation des situationnistes, c'est un texte qui dit que Marinetti a été dans une impasse et qu'il faut relever l'impasse de Marinetti. Mais en revanche, les situationnistes montrent que l'accélération est un effet négatif de la société. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le temps accéléré, c'est une caractéristique de ce que les situationnistes appellent le temps spectaculaire. Alors, c'est-à-dire que la société du spectacle, c'est un concept qui est fondé par Debord dans un livre qui s'appelle « La société du spectacle ». Et en fait, c'est le stade de notre société, c'est le stade dans lequel les rapports sociaux ne sont plus vraiment vécus, mais ils sont simplement représentés. C'est-à-dire que c'est un stade de la société où on est envahi d'images, l'objet symbole, ça serait la télévision. Hein, mais... Donc c'est le stade de la société où on est envahi d'images qui médiatisent les rapports entre les personnes. Donc il y a un éloignement dans la société du spectacle, il y a un éloignement du vécu. On vit presque dans une irréalité permanente. Il y a un éloignement du vécu et un éloignement de la réalité. C'est aussi plus ou moins une société de la surconsommation. C'est-à-dire que l'objet consommé, c'est une image. Mon super téléphone dont je suis très fier me représente et c'est par là que j'acquiers un statut social. Donc c'est l'objet consommé est une image. Or, cette société fait tout pour sortir les individus de l'histoire puisqu'ils ne vivent plus vraiment. Donc ils ne peuvent plus réellement se construire une histoire au sens propre du terme. Et elle les sort de l'histoire pour les faire rentrer dans ce que Debord appelle un temps pseudo-cyclique. C'est-à-dire on consomme le temps pseudo-cyclique, c'est le moment où on consomme le temps en attendant un soi-disant retour des moments consommables et souhaitables. On attend le retour du week-end, on attend le retour des vacances. Et ces moments sont présentés comme ce dont il faut profiter, comme la vie réelle. Ah là là, je dois subir le travail vivement le week-end. Alors qu'en fait, il s'agit là aussi d'une représentation spectaculaire. Le week-end, tout est fait pour être comblé de télé, de loisirs consommables, et donc ça reste encore une représentation spectaculaire, donc fausse de la vie. Donc on présente comme ces moments comme extraordinaires, et donc forcément, quand on les vit, ils sont décevants. Pourquoi ils sont décevants ? Parce qu'en fait, il y a toujours un manque de vécu, il y a toujours une insatisfaction. Le temps file trop vite, le lundi revient toujours trop vite quand on est le vendredi, etc. etc. Mais donc, du coup, cette accélération du temps, cette idée que le week-end passe beaucoup trop vite, c'est un effet de la société du spectacle, de l'irréalité des rapports sociaux. Il n'y a rien d'objectif dans ce ressenti. Certes, c'est un sentiment collectif, mais ce ne sont que des sentiments, que des ressentis subjectifs. Mais, dans ce cas-là, même si ce sentiment éclate dans la société avancée, dans la société du spectacle, dans la société moderne, technologique, comme on voudra l'appeler, à quel moment il émerge ? À partir de quand on peut trouver cette tendance qu'ont les hommes à penser, à ressentir que le temps accélère ? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième sous-partie, hein, depuis quand le temps est-il hors de ses gonds ? Alors, le temps est hors de ses gonds, c'est une citation de la fin de l'acte 1 d'Hamlet. Voilà, c'est-à-dire que cette époque est détraquée, donc Hamlet vient d'apprendre que son père avait été tué par son oncle et sa mère. Et, voilà. Et donc, c'est ce qui lance l'action. Donc, cette époque, il est traqué, et le but, ça va être de le remettre sur ses gonds. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire une enquête historique ou de lister toutes les occurrences de l'accélération du temps en remontant depuis, je ne sais pas moi, les situationnistes jusqu'à quand, ce qu'on va voir. Mais il s'agit de voir, justement, si ce sentiment ne serait-il pas permanent. N'y aurait-il pas toujours eu le sentiment que le temps accélère? En tout cas, ce qu'on peut dire, on peut dater cela de bien avant notre société contemporaine. Je vous ai mis, alors je vais passer très rapidement, mais je vous l'ai mis parce que j'ai pas pu résister à vous mettre, le texte de Kierkegaard, qui est le texte 2. Quand on le lit, en fait, on a l'impression d'une plainte de la communication sur les réseaux sociaux. Les gens communiquent trop vite, ils veulent absolument se faire comprendre, et ils sacrifient tout à la compréhension d'eux-mêmes, et du coup, tout va trop vite, et on n'a pas le temps de vivre réellement. Voilà. Donc et ça date de 1847. Alors, datation approximative, puisque ça a été retrouvé dans ses papiers. Ou on peut remonter aussi dans Thomas More, dans l'Utopie, on trouve deux occurrences, puisque vous savez, dans le dispositif de l'Utopie, ce que montre Thomas More, c'est une dénonciation de ce qui est vécu dans la société anglaise de l'époque. C'est-à-dire que l'Utopie, il prend toutes les causes de souffrance dans la société anglaise, voilà, et qui ont cessé d'exister dans la société de l'Utopie, et c'est pour ça que tout le monde vit heureux. Or, dans l'Utopie, on note que la journée de travail, voilà, les gens ne se tuent pas à la tâche, ils ont tout le temps pour vivre à côté de leur travail. Le travail est seulement de 8 heures. Voilà. Donc, sous-entendu, les gens n'ont pas le temps de vivre dans la société anglaise, forcément, puisqu'il faut inverser, c'est un rapport inversé par rapport à la société réelle. Et même chose, il y a une petite remarque sur le fonctionnement du Parlement des Utopiens, où justement le Parlement prend bien soin d'attendre. Quand il arrive un événement, avant de délibérer, le Parlement prend bien soin d'attendre pour bien avoir tous les éléments en tête. Sous-entendu, le Parlement anglais délibère trop vite. Voilà. Donc, il y a déjà les prémices d'une plainte que le temps va trop vite à l'époque de More. Mais, alors, si on remonte plus loin, est-ce que au fond, ça ne serait pas lié à la reconnaissance de notre mortalité? Et l'argument semble se tenir. En prenant conscience de notre mortalité, nous trouvons que le temps qui nous sépare de la mort est trop court. Donc plus on se rapproche de la mort, plus on trouve que le temps va trop vite. Et donc on pourrait, voilà, donc de fait, dans ce cas-là, ça serait pour tout le monde. Et on pourrait peut-être, dans ce cas-là, aller jusqu'à... Est-ce qu'une des premières citations de la philosophie avant Socrate, est-ce que cette citation ne serait pas l'expression de l'accélération du temps? Je pense à la citation d'Héraclite qui dit, il y en a deux en fait, hein, donc, qui est vraiment le tout premier philosophe, il y en a une qui dit « tout coule », voilà, et le deuxième qui dit « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Alors, donc clairement, est-ce que ça serait un témoignage d'une plainte contre l'accélération du temps? Et alors là, la réponse... elle est très rapide, on est obligé de dire non. Pour deux raisons. D'abord, chez Héraclite, c'est pas une plainte, c'est un constat. Il ne se plaint pas particulièrement que le monde soit en devenir permanent. Bon, alors on a très peu de citations, mais bon, a priori, voilà, il n'y a pas de récrimination contre le monde chez Héraclite. Et en plus, c'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire que ce qu'identifie Héraclite, c'est un devenir permanent. C'est pas une accélération. C'est-à-dire que quand on dit tout coule, c'est différent de tout s'écoule trop vite ou de tout s'écoule de plus en plus vite. C'est juste, voilà, il y a un devenir. Donc, voilà. Et même chose, si au Moyen-Âge, on trouve assez peu de traces. Alors, je dis pas que des gens devaient être pressés par le temps parce qu'ils allaient être en retard à leur rendez-vous, ça devait sûrement arriver. Mais on trouve pas de traces d'une plainte contre l'accélération du temps. Au contraire. Un des grands péchés capitaux, c'est la paresse, c'est la sédie. Et donc, c'est au contraire le fait que le temps passe un peu trop lentement, qu'on ne fasse rien. Voilà, c'est ça le péché. Donc, de fait, le manque de temps, l'accélération du temps serait pleinement une maladie moderne. En cela, plutôt qu'Hamlet, que j'ai mis en titre de ma sous-partie, mais je l'ai mis parce que... la citation est assez jolie, le héros de l'accélération du temps, ça serait plutôt Faust. Le héros qui se confronte à l'accélération du temps, c'est Faust. Faust qui passe un pacte avec le diable, et le diable aura son âme le jour où il aura trouvé qu'un instant vaut la peine d'être vécu. Donc le jour où il aura trouvé que le temps passe trop vite, autrement dit. Le « arrête-toi, tu es si beau » de l'instant vécu, bah, c'est quand on trouve que le temps passe trop vite. Donc, de fait, comment expliquer que tout à coup, au moment où émerge la société moderne, de dire 16e siècle, 17e, par là, quoi, enfin, voilà, pourquoi on a le sentiment d'un coup que le temps sort de ses gonds? Et donc, il s'agit de voir quel est le fondement de l'accélération du temps. Et on est forcé de constater que le thème de l'accélération du temps apparaît chez les différents auteurs à une époque qui est contemporaine de ce qu'un économiste, Polanyi, appelle la grande transformation. La grande transformation, c'est l'ensemble des mutations socio-culturelles et économiques aussi, qui rendent possible, puisque c'est l'ensemble pour nous, donc c'est l'ensemble des mutations socio-culturelles, économiques, qui rend possible le capitalisme. Et on peut même aller plus loin. Ce sentiment d'accélération du temps, il est indissociable d'une nouvelle conception du temps sans laquelle le système capitaliste n'aurait pas pu s'imposer. Et cette nouvelle conception du temps, elle est en fait au cœur de ce qu'on pourrait appeler l'esprit du capitalisme. C'est ce que Max Weber montre dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est le texte 3. Et alors, dans un texte, un petit peu avant dans son texte, au tout début de son texte exactement, Weber montre que les premières fabriques, donc les premières tentatives de mode capitaliste de production, ont fait faillite, faute d'avoir réussi à inculquer cette conception du temps, cette conception de la régularité du travail aux ouvriers. C'est-à-dire que pour faire venir les ouvriers, ces premières fabriques payaient plutôt mieux que dans les champs, donc les ouvriers venaient, sauf qu'en fait, ils faisaient juste de quoi vivre, ils faisaient juste leur travail de quoi vivre, et puis ils repartaient. Et donc, forcément, ça, c'était incompatible avec le mode de fonctionnement de la fabrique, qui du coup, voilà. Donc, autrement dit, les ouvriers, les paysans, qui devenaient ouvriers très peu de temps, étaient encore dans une mentalité, ce que Weber appelle une mentalité traditionnaliste, qui était incompatible avec la mentalité, avec l'esprit du capitalisme. Alors, certes, du coup, on est passé par les bas salaires. Forcément, si vous touchez un bas salaire, vous êtes obligé de rester plus longtemps. Et donc là, vous finissez par fournir le travail régulier qui est attendu de vous par la fabrique. Mais pour pleinement s'implanter, il a fallu que le capitalisme réussisse à intégrer l'idée que le temps, c'est de l'argent. En fait, l'éthique capitaliste... L'esprit du capitalisme et l'éthique protestante, enfin l'esprit du capitalisme, c'est ça. C'est le temps, c'est de l'argent. Or, pour pouvoir mettre ça dans la tête des individus à l'époque, pour que les individus puissent se dire que le temps, c'est de l'argent, donc on est passé par les bas salaires, en effet, mais le protestantisme a également été un allié précieux. Alors, je ne dis pas que... le protestantisme a été nécessaire à l'émergence du capitalisme, mais en tout cas, les deux se sont renforcés. Les deux phénomènes sont concomitants, en fait, déjà. Alors pourquoi spécifiquement le protestantisme? En quoi le protestantisme, en quoi l'éthique protestante permet-elle de changer la conception du temps et lance-t-elle l'accélération du temps? Eh bien parce que les protestants, ils font du travail la vertu cardinale. Alors, pourquoi? C'est parce que une des grandes distinctions entre les protestants et les catholiques, c'est le rejet de ce qu'on appelle le salut par les œuvres. C'est-à-dire que Luther lance cette thèse parce qu'il en a marre de voir les riches, entre autres, il y a d'autres raisons, mais il en a marre de voir les riches chrétiens qui se comportent mal, mais qui globalement payent, entre guillemets, leur salut au paradis, c'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Les œuvres, c'est en fait souvent acheté, c'est de l'argent. Et à la place de ce salut par les œuvres, les protestants remplacent ça par la prédestination. C'est-à-dire, autrement dit, Dieu aurait déjà choisi qui serait sauvé et qui serait damné. Et alors là, c'est très étrange. Comment le fait que certains soient destinés à être sauvés avant même leur naissance, comment cela a pu conduire à une éthique du travail ? Au contraire, on aurait plutôt tendance à dire que c'est décourageant, quoi. Enfin, de toute façon, tout est gagné, tout est perdu. Voilà. Et c'est justement ce que montre Weber dans le texte 3. C'est-à-dire que, en fait, le travail, c'est la fin en soi de l'homme. L'homme est sur terre pour travailler. Or, il ne peut réussir sa tâche. Il ne peut réussir son être, son humanité, que s'il est élu. Par conséquent, travailler au maximum, c'est un signe de notre élection. Si on arrive à travailler au maximum, c'est qu'en fait, on est élu. Donc, on ne doit plus jamais jouir du temps. C'est une éthique ascétique, en fait. Il n'y a pas du tout de plaisir. Et donc, c'est pour ça, hein, voilà, le deuxième paragraphe, hein, gaspiller son temps est donc le premier, en principe le plus grave, de tous les péchés. C'est le pire péché. Il faut exploiter au maximum son temps. Et même, vous voyez, un peu plus loin dans le texte, le temps est précieux infiniment, car chaque heure perdue est soustraite au travail qui concourt à la gloire divine. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un signe de notre élection. Aussi, la contemplation inactive, en elle-même dénuée de valeur, est-elle directement répréhensible lorsqu'elle survient aux dépens de la besogne quotidienne ? C'est-à-dire que, voilà, même la contemplation devient suspecte. Et donc, la conséquence, c'est le temps est précieux, toujours trop bref, pour pouvoir montrer pleinement notre élection. C'est-à-dire que, voilà, dans l'idéal, il faudrait toujours pouvoir en montrer plus. Donc, on va toujours manquer de temps, et donc, on va toujours avoir le sentiment que le temps va trop vite. Mais si on réfléchit précisément ici, on a établi que le temps passe trop vite. Mais il manque un élément, il pourrait passer trop vite tout en étant stable. La vie est trop courte. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Mais au fond, la vie est toujours trop courte, sans qu'elle accélère. C'est-à-dire qu'il manque un élément pour comprendre le sentiment d'accélération. C'est-à-dire qu'il y a une différence, autrement dit, entre le temps passe trop vite et le temps passe de plus en plus vite. Quel est cet élément d'explication ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la production capitaliste, elle est orchestrée par ce qu'on pourrait appeler la rationalité ou la raison économique. C'est-à-dire que la raison économique, c'est une raison, c'est une manière de penser, c'est une raison qui vise à tout mesurer, tout quantifier, pour pouvoir en tirer un profit. Et donc, le marché n'est possible, le marché qui est l'institution centrale du capitalisme, le marché n'est possible que par la rationalité économique. Il n'y a pas de marché sans rationalité économique. Et donc, forcément, la rationalité économique va faire un marché du temps. Il va y avoir un marché du temps. C'est-à-dire que, or, c'est la rationalisation... Or, c'est la rationalisation du temps qui va conduire au sentiment d'accélération. C'est ce que va montrer Gortz, donc Gortz, qui est un philosophe français du XXe siècle. Hein. Oui, j'ai pas dit Weber, c'est un sociologue allemand au début du XXe. C'est ce que va montrer Gortz dans son texte 4. C'est-à-dire que, à partir du moment où je suis sur le marché, vous voyez, hein, deuxième paragraphe, tout change à partir du moment où je ne produis plus pour l'autoconsommation, mais pour le marché. Il faut alors que j'apprenne à calculer. C'est-à-dire que, à partir du moment où je suis sur le marché, je dois tout calculer pour rester compétitif. Donc je dois calculer mon rendement, et mon rendement doit être le meilleur possible. Donc j'organise ma vie en fonction de cela. Et donc c'est là que j'ai besoin d'un temps linéaire. Je dois savoir précisément combien de temps va me prendre une action pour savoir combien de temps je vais pouvoir la facturer, quel effort ça va me demander, etc. Donc j'organise ma vie en fonction de cela, en fonction d'un temps linéaire et homogène. Je dois pouvoir le découper pour pouvoir le rentabiliser, calculer chaque étape, savoir quelle étape je peux raccourcir pour produire plus, etc. Donc, de fait, je suis en fait face à un temps quantitatif. C'est-à-dire que le capitalisme suppose un temps quantitatif. Or, C'est ce que montre le dernier paragraphe. Le temps quantitatif s'oppose, n'admet aucune auto-limitation. C'est-à-dire que à aucun moment, à partir du moment où je suis dans une conception uniquement quantitative du temps, je vais me dire que ça suffit, j'ai assez travaillé. Que ça suffit, j'en ai assez, j'ai assez d'argent aussi. Voilà. Puisque je suis dans une conception quantitative, il n'y a plus de notion de suffisant ou de trop. Voilà. Suffisant et trop, ce sont des conceptions qualitatives, ce sont des concepts qualitatifs et non quantitatifs. Donc, si je commence à me dire que j'en ai trop ou que ce que j'ai fait, c'est suffisant, bah, je sors de la compétition. Et donc, très vite, je me retrouve mis sur le côté. C'est ce qu'on retrouve dans tout le discours des grands patrons. Hein. Peut-être que je suis arrivé, mais surtout, il ne faut pas s'endormir, etc. Il faut continuer à innover, etc. Donc, il y a cette idée. Donc, à partir de ce moment-là, puisqu'il n'y a plus d'auto-limitation, j'en veux toujours plus. Et si j'en veux toujours plus, bah, je n'ai jamais assez de temps, mais dans le sens où j'essaierai toujours d'aller de plus en plus vite. Et donc, il va y avoir là, clairement, un sentiment d'accélération. Qui peut d'ailleurs être vécu comme positif quand je suis un gagnant du marché, ce sentiment d'accélération, voilà, je suis très fier d'arriver, on a plusieurs cas d'élite actuellement qui sont très fiers de dire qu'ils dorment 3 heures par jour et qu'ils arrivent à faire, qui ont 4 téléphones et qui jonglent sur 5 continents en même temps, ils en sont très fiers. Donc ce sentiment d'accélération, il peut être vécu positivement ou, pour ceux qui ne sont pas élus, justement, négativement. Donc, le résultat, en fait, il est contre-intuitif. L'accélération du temps, elle n'est pas contredite par l'existence d'un temps homogène et stable. Au contraire, c'est l'existence du temps homogène et stable qui rend possible le sentiment d'accélération du temps. Alors, certes, à la fin de cette première partie, on peut dire que ce sentiment n'est pas universel. D'abord parce qu'il n'a pas toujours existé, hein, la production capitaliste, est un fait historique, autour du 15, 16, 17e siècle. Donc ce sentiment n'est pas dans la nature de l'homme, ce n'est pas, comme on a pu l'examiner, lié à notre mortalité. Et puis on peut dire que certes aussi ce n'est pas universel parce que seulement la quasi-totalité des hommes actuels y sont soumis. Ils restent, et puis il faut les respecter, quelques tribus de chasseurs-cueilleurs à droite à gauche qui eux ne vivent pas dans cette production capitaliste et donc on ne connaît pas leur conception du temps, mais peut-être qu'ils ne subissent pas l'accélération du temps. Bon, faisons abstraction, malgré tout ce que ça peut avoir d'intéressant de ces chasseurs-cueilleurs, on peut alors se poser une question. Si nous sommes tous, presque, soumis à ce processus, nous ressentons tous l'accélération. En plus, on voit qu'il y a un fondement rationnel. Ce n'est pas simplement un ressenti délirant. Voilà. Il y a un fondement rationnel à cette accélération du temps. Et donc, est-ce que celle-ci ne dépasserait pas le sentiment subjectif? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une objectivité à l'accélération du temps? Et donc, ça sera l'enjeu de la deuxième partie, hein, la tentative d'objectivation de l'accélération du temps. A priori, l'idée est complètement délirante. Le sentiment d'accélération est rendu possible par la promotion et l'hégémonie d'un temps homogène, stable, calculable. C'est ça le temps objectif. Donc objectivement, on ne devrait rencontrer que ce temps homogène. On devrait rencontrer le temps où une heure vaut une heure, un temps non accéléré. Voilà, je ne peux pas dire qu'au XXe siècle, une heure s'est mise à valoir 50 minutes. Ça n'a aucun sens. Une heure est toujours restée une heure. Puis au 21e, 45. Et pourtant, malgré l'idée délirante, certains ont essayé. Et avec des résultats qui ne sont pas ridicules. Donc, voilà. Avec un premier défi. C'est-à-dire que comment on peut mesurer cette accélération du temps? C'est la première sous-partie. C'est-à-dire que si l'accélération du temps est objective, le principe de ce qui est objectif, ça se mesure. Donc on doit pouvoir mesurer l'accélération du temps. Sauf que notre outil pour mesurer le temps, c'est le temps stable et homogène. Donc comment peut-on montrer qu'il y a accélération. Alors, la façon la plus évidente de révéler objectivement une forme d'accélération, c'est de constater une accélération des techniques. C'est le point de départ de Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand contemporain, donc qui a fait deux livres, deux livres qui traitent de cette question, qui sont « Accélération, une critique sociale du temps » et « Accélération, aliénation ». Donc, le point de départ de Rosa, c'est ça, c'est l'accélération technique. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique ? Rosa l'a définie, mais c'est très proche de la définition qu'on peut donner, par exemple, aux élèves. C'est l'ensemble des processus orientés vers un but. Or, on peut constater que ces processus vont de plus en plus vite, notamment dans trois domaines, les transports, la communication, la production. On se déplace de plus en plus vite. On communique, les communications vont de plus en plus vite. Et la production va de plus en plus vite. Or, il est possible, sur ce point, d'effectuer des mesures d'accélération dans ces domaines. Par exemple, depuis les débuts de l'ère industrielle, on a mesuré que la vitesse moyenne des transports a augmenté de 102%. La vitesse de traitement des données, alors là c'est énorme, voilà, je ne me suis pas penché sur comment ils avaient fait les calculs, hein, mais voilà, 1010% d'augmentation. Donc, au fond, ces modifications techniques modifient notre rapport au temps. Cette accélération technique modifie notre rapport au temps. Notamment avec une conséquence inattendue, c'est que l'espace perd de son importance. Et il devient un facteur négligeable dans notre rapport au monde. Je peux avoir un ami qui vit en Nouvelle-Zélande et je peux le voir en vidéo. Et il devient même exprimé en fonction du temps. Cette conférence a été possible parce qu'au fond, je ne vis pas à 300 km du Havre. Je vis à 3 heures du Havre. Voilà. Donc je calcule en termes de temps. Toujours. Donc, il y a une accélération qui fait que le temps passe plus vite. Mais si on s'en tenait à ce seul facteur, ça ne serait pas décisif. Justement, ce sont des objets qui rendent le temps disponible. Et au fond, voilà, ce qui accélère, ce sont les techniques, c'est pas le temps. Mais il y a une autre mesure, moins évidente, qui la touche au cœur du temps. C'est ce que Rosa appelle l'accélération du changement social. C'est-à-dire que le rythme des mutations sociales, c'est ce qu'il montre dans le texte 5. Le rythme des mutations sociales, le temps de la société, accélère. C'est ce qu'il appelle, en reprenant le terme d'un philosophe allemand, la compression du présent. Et là, pour le coup, si donc compression du présent, ça veut dire que le présent dure moins longtemps. Et donc là, on est forcé de reconnaître de manière assez objective que si le présent dure moins longtemps, bah, le temps accélère. Alors comment on prouve que le présent dure moins longtemps ? Parce que ça paraît bizarre. C'est-à-dire qu'on peut définir le présent comme le temps où quelque chose reste valable. Vous voyez, c'est ligne 5-6. Voilà, le passé, c'est ce qui n'a plus cours. Le futur, c'est ce qui n'a pas encore cours. Voilà. Et donc, au milieu, on a le présent. C'est le temps où quelque chose reste valable. Dans le temps présent, on peut utiliser nos expériences déjà vécues pour s'orienter. Je connaissais le chemin pour venir. C'est-à-dire que, et donc, à partir de nos expériences déjà vécues, on prévoit quelque chose. Mon trajet, ça va me mettre 3 heures. Je pars en milieu d'après-midi, il n'y aura pas de bouchon. Donc, voilà, on prévoit quelque chose qui se vérifie. Donc, il y a une coïncidence entre ce que Rosa appelle l'horizon d'attente, ce qu'on prévoit, et l'expérience. Alors, l'exemple type, c'est avec les logiciels. J'ai appris à me servir d'un logiciel. Et tant que la version de ce logiciel reste valable, eh bien, il est présent. Son usage correspond à mon horizon d'attente, je sais. Et justement, quand la version change, je suis perdu. Il va falloir que je réadapte mon expérience. Or, on constate que cette expérience dure, cette coïncidence entre mes expériences et mon horizon d'attente, cette coïncidence dure de moins en moins longtemps. Le présent se rétrécit dans quasiment tous les domaines. C'est-à-dire que les connaissances, voilà, les connaissances qu'on a apprises doivent être mises à jour de plus en plus régulièrement, dans de plus en plus de disciplines, philosophie, etc. Les usages, voilà, je parlais de l'informatique, les institutions. On a une constitution qui, voilà, on se sent obligé de réviser la constitution de plus en plus souvent. Les relations entre amis ou les relations dans un couple durent de moins en moins longtemps. La réputation, la mode, vraiment dans énormément de domaines, on voit que cette coïncidence, le temps où quelque chose reste valable, dure de moins en moins longtemps. Et cette accélération, elle est complétée par une troisième dimension de l'accélération du temps, qui est l'accélération du rythme de vie. C'est le texte 6, l'accélération du rythme de vie. Alors, ici, la question, le rythme, en effet, on a tous l'impression que nos rythmes de vie sont de plus en plus fous. Mais la question, elle est davantage comment mesurer objectivement cette accélération qui semble extrêmement personnelle. Et là, autant comme on a vu Rosa pour l'accélération du changement social, il a calculé le temps où quelque chose reste valable. Et on constate que l'expérience dure de moins en moins. En fait, il va prendre la méthode inverse pour mesurer l'accélération des rythmes de vie. On prend une unité de temps, une heure, deux heures, dix jours, ce que vous voulez. Et donc une unité de temps objectif, et on constate une augmentation des expériences vécues durant ce temps. C'est ce que dit le texte 6. Hein, voilà. Si je fais plus de choses dans un même laps de temps, le temps passe plus vite. Alors comment faire pour faire plus de choses, hein, ça, le premier paragraphe le dit, on peut accélérer l'action elle-même, marcher plus vite, mastiquer plus vite, faire plus vite. On peut ensuite réduire la durée des pauses. Voilà, au lieu de dormir 8 heures, je vais en dormir 4, puis 3, puis 2. On peut aussi, même les supprimer, et donc on peut aussi exécuter plusieurs tâches en même temps. Je regarde quelque chose à la télé tout en scrollant mes réseaux sociaux. Voilà. Donc, je fais deux choses, et je mange en même temps. Trois choses en même temps. Donc, du coup, ça se mesure. En moyenne, on constate qu'on mange de plus en plus vite, qu'on dort moins, etc. Et en plus de cela, en plus de cette constatation, on peut élargir cela au-delà des actions. Puisque là, selon les exemples que j'ai pris, c'est des actions. Je marche. Voilà. On peut élargir cela à ce que Rosa appelle des expériences vécues. C'est à partir des 3e et 4e paragraphes. Une expérience vécue, c'est plus large qu'une action, puisque il y a des expériences vécues passives. L'exemple type de l'expérience vécue passive, c'est la télé. Quand je suis devant la télé, un peu abâchi après ma journée de travail, il n'y a pas vraiment une action. Pourtant, c'est une expérience vécue. Voilà. Or, la maxime de la société, c'est de vivre le plus d'expériences possible. C'est-à-dire qu'avec un idéal illusoire, de vivre intensément, c'est-à-dire sans temps mort. L'idée, ce serait de vivre intensément, toutes sans cesse, des expériences. Et donc, forcément, il va y avoir une condensation du vécu, et donc une condensation du temps. Le temps va être compressé. Ça explique cela, un paradoxe apparent. Ça explique la famine temporelle, dont on est tous victimes, famine temporelle, pardon, c'est une expression de Rosa. Ça explique la famine temporelle malgré les évolutions technologiques, puisque l'accélération technologique a un but affiché, toujours, nous faire gagner du temps. Et pourtant, le temps manque. C'est bizarre. Comment on explique que le temps manque alors que le but affiché, c'était de gagner du temps? Eh bien, parce que le gain de temps est comblé par de nouvelles expériences. Et si celles-ci augmentent plus vite que le gain de temps que nous permettent les technologies, s'il y a plus d'expériences à faire, eh ben, il s'ensuit une famine temporelle. Je n'ai plus assez de temps. Bien que j'ai gagné du temps sur certains points, je n'ai plus assez de temps pour faire ce que j'ai à faire. Et l'expression faire ce que j'ai à faire, pouvant recouvrir des temps sans aucun jugement de valeur. Ça peut être regarder la télé, les réseaux sociaux, tout, faire ce que j'ai à faire. L'exemple type qu'on peut prendre, c'est la correspondance professionnelle. En 90, alors pareil, je ne suis pas allé vérifier les données, on recevait 10 lettres par jour. Ça nous prenait 3 heures à traiter ces 10 lettres par jour dans le cadre d'une correspondance professionnelle. Si on était resté au même nombre de correspondances avec les emails et notre manière d'écrire, qui a changé aussi, bah ça nous prendrait 10... Voilà, en combien de temps ça nous met à traiter 10 mails? Une demi-heure. Ouais, 45 minutes, je suis gentil. Sauf que, donc si la correspondance était restée la même, voilà. Sauf qu'en fait, certes, les emails nous font gagner du temps dans notre correspondance, mais il y a une telle croissance exponentielle du nombre de correspondances professionnelles qu'on a dans une journée, qu'on n'a plus assez de temps. Voilà. Et donc, cette famine temporelle, ça explique aussi la source d'insatisfaction, forcément. Malgré les évolutions technologiques qui me permettent de toujours plus de gains de temps, je suis insatisfait. Voilà, on peut prendre les réseaux sociaux qui prennent sur du temps d'autres choses et du temps qui... Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, mais la plupart des gens qui traînent sur les réseaux sociaux ne sont pas satisfaits de traîner sur les réseaux sociaux. Ils pensent « Ah, j'ai perdu 3 heures. » Donc, s'il y a insatisfaction, pourquoi cette accélération continue ? Donc ça, c'est la première question. Personne n'est satisfait. Voilà. Pourquoi on ne l'arrête pas ? Et puis en plus, depuis qu'on accélère, comment expliquer, depuis le temps qu'on accélère, donc on a dit au moins 5 siècles, 6 siècles, comment expliquer qu'on n'ait pas atteint une limite ? On accélère toujours de plus en plus. Et pour ça, il faut se poser la question de quels sont les moteurs de l'accélération du temps. En fait, c'est la troisième sous-partie, la deuxième partie. En fait, si l'accélération est permanente, le processus est... C'est parce que le processus est auto-alimenté. C'est-à-dire que les trois dimensions de l'accélération, technique, changement social, rythme de vie, s'entraînent et s'alimentent. Et donc il s'ensuit une spirale accélératrice, qui est résumée par Rosa, avec un schéma qui est assez clair, qui est le... j'ai intitulé le texte, je n'ai pas mis le schéma 1, qui est le texte 7. C'est-à-dire que... Pour comprendre, le schéma est assez simple, mais pour comprendre le schéma, il faut partir du triangle qui est au milieu. C'est-à-dire que l'accélération technique entraîne l'accélération du changement social. Les infrastructures et les structures sociales, les institutions, sont de plus en plus vite remplacées. Les modes de vie sont de plus en plus vite remplacés du fait des changements techniques. Et... L'accélération du changement social entraîne l'accélération du rythme de vie. L'individu remet en cause ce qu'il savait de plus en plus vite. Et il doit s'adapter sans cesse à de nouvelles structures dans les différents domaines de sa vie. Et donc on retrouve le problème de la famine temporelle. Et comme on a une famine temporelle, qu'est-ce que ça entraîne ? Une innovation technologique pour répondre à cette famine temporelle, qui elle-même va entraîner une accélération du changement social, etc., etc. D'où la spirale. On repart. Et en plus de ce cycle, qui est déjà assez costaud, chacune des accélérations, accélération technique, accélération du changement social et accélération du rythme de vie, chacune de ces accélérations a un moteur indépendant. Donc, c'est-à-dire que, autrement dit, l'accélération technique, elle a un moteur qui est l'accélération du rythme de vie, et un autre moteur indépendant. Ce moteur indépendant, il est symbolisé par les trois cercles qui entourent le schéma. Donc, en effet, l'accélération technique, il y a le moteur économique. On veut toujours évoluer techniquement pour être à la pointe et pour être le rendement. On retrouve la rationalité économique, rationaliser son temps, etc. etc. L'accélération du changement social, elle a comme moteur indépendant ce que Rosa appelle la différenciation fonctionnelle. C'est-à-dire que, en fait, un agent social a plusieurs fonctions dans plusieurs systèmes sociaux. Vous voyez, je suis prof, père de famille et intervenant dans une association à cette conférence. Là, je prends trois systèmes. Et ces fonctions, dans ces différents systèmes, se perturbent mutuellement. Chaque système tend... Donc, c'est-à-dire que voilà, bah, pour préparer sur la conférence, ça fait 3 mois que je mets ma vie de famille en pause, et j'ai pas vu mes enfants, voilà, et je n'ai pas donné cours non plus depuis 4 mois. Et donc, forcément, bah, les autres systèmes se sentant perturbés, ils essayent de s'adapter. Donc, chaque système essaye de s'adapter et donc change pour pouvoir répondre à ces perturbations. Donc, ça, c'est le moteur indépendant. Et enfin, le moteur indépendant de l'accélération du rythme de vie, c'est la promesse de l'accélération, c'est l'idée, l'idéal de vivre intensément tout. C'est ce dont on parle. Et donc, à force d'accélérer, il a fini par se produire une rupture dans la modernité. Autrement dit, on peut distinguer 2 régimes de la modernité. C'est-à-dire que la forme que prend l'accélération va déterminer 2 types de modernité. C'est ce que va montrer le texte 8. C'est-à-dire que tant que les changements impliqués par l'accélération restaient à l'échelle d'une génération, on était dans le domaine, de la modernité classique. Certes, il y avait une accélération constante ou pas, mais en tout cas, voilà. Mais l'individu parvenait encore à s'orienter et à se définir lui-même. Il peut avoir un projet de vie. Certes, ce projet de vie paraîtra complètement débile à la génération suivante. Mais bon, dans sa vie, il arrive à s'orienter. Et il peut avoir une identité plus ou moins stable. Et même quand il y avait un changement dans notre vie, celui-ci était exceptionnel. Voilà, on changeait de métier une fois éventuellement. On pouvait divorcer. Mais on ne divorçait pas 15 fois. On peut prendre l'exemple classique du prof. Le prof ne comprenait pas ses élèves. Mais au fond, globalement, ça restait stable. C'est une rupture générationnelle. C'est normal de ne pas comprendre ses élèves dans une certaine mesure. Et quelque part, le nouveau prof ne faisait pas prof, ne faisait pas cours comme ses maîtres lui avaient enseigné. Mais sa manière de faire cours, globalement, elle restait stable. Il y avait des petits changements, bien sûr. Mais il n'y avait pas une remise en cause permanente. Le problème, c'est quand l'accélération est arrivée à un stade tellement rapide que le changement s'est fait à l'intérieur d'une génération. Il y a eu un changement intragénérationnel. C'est-à-dire que rien de ce qu'un homme est à un moment donné ne sera valable à long terme. Et donc, dans ce cas-là, il devient dangereux d'avoir un projet de vie. Comment je peux me lancer dans telles études, dans telles choses, si les valeurs qui ont cours actuellement non plus court dans 10 ans, dans 5 ans. Il y a une impossibilité de se proposer une identité stable. Et donc, ah oui, puisque pour rester dans le coup, je dois m'adapter, je dois sans cesse changer mes valeurs. Donc, on tombe alors dans ce que Rosa appelle la modernité, et Bauman aussi, hein, alors Bauman, il appelle ça la vie liquide, la société liquide, la modernité tardive, attardée. C'est-à-dire, voilà, par exemple, on peut prendre l'exemple que Don Juan ou Casanova, à l'ère de Tinder, c'est des petits joueurs, en fait. Voilà. Donc, en fait, les forces de l'accélération sociale et temporelle semblent démesurées. Même si elles peuvent être source d'insatisfaction, ne faudrait-il pas l'accepter comme un fait accompli, indubitable ? Presque au même titre qu'une loi physique. Faut-il s'y adapter comme une composante anthropologique indépassable ? Ou au contraire, faut-il essayer de sortir de cette accélération ? Ce sera l'enjeu de la troisième partie. L'accélération du temps est-elle un fait accompli ? On a évoqué les sources de souffrance. Et puis, majoritairement, on constate que l'accélération du temps, elle est regrettée. Mais au fond, il est des souffrances inévitables dans la vie humaine. Quand je me cogne, pire, quand je chute, bah, je ne veux pas abolir la gravité. Je suis tombé. Voilà. La souffrance, d'une certaine manière, elle est propre à l'être vivant, à notre rapport à la mort aussi. Donc faut-il ranger l'accélération au titre de ces conditions de la vie humaine et trouver une sagesse pour vivre ce nouveau temps ? Et d'une certaine manière, c'est ce que propose énormément de métiers, d'activités actuellement. Quand on fait une détox numérique pour se remettre d'aplomb entre... Voilà, c'est ça, en fait. On se réinitialise d'une certaine manière pour repartir de plus belle dans une nouvelle année. Quand on fait une retraite méditative pour bien recharger les batteries, même chose. Quand on fait du yoga, pardon, pour tenir notre vie de fou. Tout ça, ce sont des tentatives d'adaptation à une accélération qui nous semble inarrêtable. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une sagesse pour les temps de l'accélération ? Ou est-ce qu'on doit chercher à ralentir l'ensemble du temps ? Est-ce qu'on doit sortir du cycle de l'accélération ? Et donc pour répondre à cette alternative, il faut se pencher sur les défis que pose l'accélération. Et le premier défi, c'est le problème de la non-contemporanéité. Alors, la non-contemporanéité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de non-contemporanéité. C'est le petit 1 du grand 3. C'est le fait de ne pas être dans son temps. Voilà, un peu. C'est le fait d'être en retard sur son temps. C'est-à-dire que nos modes de vie, nos modes de pensée retardent. C'est un concept qui a été forgé par un philosophe allemand du XXe siècle, qui est Ernst Bloch, dans « Héritage de ce temps ». Alors, « Héritage de ce temps », c'est un livre... Donc, Ernst Bloch était un philosophe allemand juif communiste. Autant vous dire que dans les années 30, c'était pas bon pour lui. Et donc, c'est un livre qui tente à chaud, puisqu'il est publié en 1935, donc il est en exil, hein, mais c'est un livre qui tente à chaud une explication de la montée du nazisme. Et son explication, c'est qu'une partie de la population était non contemporaine. Elle était mise à l'écart de la société. Et donc, comme elle était mise à l'écart de la société, elle s'est réfugiée dans un projet à la fois réactionnaire, voilà, qui proposait le retour à l'ancien, et qui proposait aussi de lui redonner une place. Alors attention, hein, ce livre, Héritage de ce temps, il y a un aveuglement pendant tout le livre sur la spécificité du nazisme. C'est-à-dire que la dimension totalitaire du nazisme lui passe à côté. Pour lui, c'est un mouvement presque réactionnaire qui met au même titre que les autres mouvements d'extrême droite allemand. Mais bon, pour l'analyse de la notion de non-contemporanéité, cet aveuglement change peu de choses. Hein. Et en fait, il y a deux visages à la non-contemporanéité. Il y a des non-contemporanéités réactionnaires, et clairement réactionnaires. Par exemple, voilà, le paysan allemand qui regrette la grandeur prussienne, c'est une non-contemporanéité réactionnaire. Bon, voilà, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais à côté de ça, donc il faut les réduire, celles-là. Mais à côté de cela, il y a des non-contemporanéités qui expriment une insatisfaction de l'époque, qui expriment une aliénation de l'époque, qui expriment une souffrance des individus, qui montrent que les individus manquent de quelque chose. Et ces non-contemporanéités, à force de le dire, voilà, ces non-contemporanéités, il s'agit pour Bloch de les dialectiser, de voir en quoi elles pourraient être source d'une société nouvelle qui ne soit pas nazie. Voilà. C'est-à-dire que cette société nouvelle, c'est une société, au fond, où Faust ne regretterait pas l'instant. Une société où Faust ne dirait pas « Arrête-toi, tu es si beau ». C'est-à-dire une société sans famine temporelle. Alors, ça, je reprends les termes de Rosa, mais ce serait ça, en fait. Or, le problème, c'est que l'accélération du temps, elle nous condamne en permanence à la non-contemporanéité. Puisque le temps accélère, on ne peut jamais être de notre temps. On retardera toujours sur notre temps. C'est d'ailleurs un peu le credo de philosophes économistes comme Lippmann, néolibéraux. Et voilà, l'homme retarde, il faut sans cesse l'adapter aux évolutions du temps. Donc au fond, puisqu'on retarde en permanence, puisqu'on est sans cesse non contemporain, eh bien cela nous empêche de dialectiser ces non-contemporanéités. Donc ça nous empêche de voir ce qu'elles peuvent avoir de positif. Et donc, le risque, c'est que ça risque de nous jeter dans un projet qui proposerait une solution simpliste, en fait. Voilà. On risque de retomber dans un projet, alors, voilà, au moins réactionnaire. C'est-à-dire le risque de voir une solution simpliste s'imposer. Alors là, le temps déconne, revenons au bon vieux temps. Voilà. Ce risque-là croît de plus en plus. Alors, le problème, c'est que là, j'ai utilisé un concept de Bloor qui est la non-contemporanéité, mais Bloor, à aucun moment, il n'analyse la question de l'accélération. Moi, je trouve que le concept de non-contemporanéité est extrêmement parlant, mais voilà. Et donc, comme il n'analyse pas l'accélération, il ne fournit pas de solution de comment on arrive à cette société où Faust ne regretterait pas l'instant qui passe. Mais ce qu'on peut dire au moins, c'est que le risque est suffisamment grand pour cela conduit à l'idée qu'on ne peut pas considérer l'accélération du temps comme un fait accompli. Il faut trouver une solution pour en sortir. Et donc, d'où ma deuxième sous-partie, comment sortir de l'aliénation du temps, l'aliénation accélératrice. Au-delà de l'insatisfaction dont on a parlé parce que j'ai une famine temporelle, au-delà de ça, la souffrance face à l'accélération du temps, elle vient de l'aliénation qu'elle produit. C'est-à-dire que l'accélération du temps produit une aliénation. Alors, je vais peut-être définir rapidement, c'est un concept qu'on est habitué à utiliser en philo, mais donc, la définition traditionnelle, c'est devenir étranger à soi-même. Et la définition que Rosa en donne, puisque là je suis sur le texte 9 en fait, la définition que Rosa en donne, c'est l'aliénation, c'est lorsqu'on fait volontairement ce que l'on ne veut pas faire. L'exemple type, si vous voulez, c'est le temps que j'ai passé sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas, je l'ai fait volontairement, personne ne m'a mis un pistolet sur la tempe pour que je passe du temps sur les réseaux sociaux. Mais je voulais pas gâcher ma soirée là-dessus. Je voulais lire Le Monde comme volonté, comme en présentation. Et pourtant j'ai fini sur TikTok. Voilà. Or, l'accélération du temps nous aliène. Elle nous pousse, hein, c'est le début du texte, elle nous pousse à ne pas. On cherche à ne pas tomber de la route des hamsters. Donc, ligne 2 et 3 du texte 9. C'est-à-dire que l'accélération du temps nous pousse à être dans la roue. C'est-à-dire qu'il s'agit de rester dans la course, rester en course, dans une compétition sociale que l'on n'a pas choisie et que l'on peut même réprouver. Voilà. C'est-à-dire que voilà, je peux très bien réprouver les réformes de l'éducation, mais pour rester un bon prof, je dois rester en course et les accompagner les élèves. Et les réformes qui, là, elle a 5 ans, donc je pense que ça devrait pas tarder, il y a une nouvelle qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc, autrement dit, à partir de là, on ne peut plus prendre le temps pour définir un projet de vie individuel. Ah oui, puisque je passe mon temps à rester dans la course, je suis dans la roue, j'ai pas le temps de me poser la question, est-ce que c'est absurde? Si je me pose la question, est-ce que c'est absurde de tourner dans la roue? Bah, je tombe de la roue, en fait. Voilà, donc, je ne peux pas prendre le temps de définir un projet individuel, je ne peux pas prendre le temps de définir un projet collectif. C'est-à-dire que les sociétés elles-mêmes ne peuvent plus prendre de recul sur leurs évolutions. Elles font aussi, les réformes proposées politiquement sont des réformes qui sont présentées comme étant contraintes pour rester dans la course. Il faut flexibiliser le marché du travail, il faut ceci, il faut cela. Et cela, c'est contraire, qu'on soit pour ou contre, en fait, c'est contraire au processus démocratique, puisque le processus démocratique, ça demande du temps pour être informé, pour discuter, pour poser les termes du débat. Donc, du coup, l'accélération sociale finit par s'opposer au concept d'autonomie. On ne peut plus définir soi-même sa propre loi. Or, l'autonomie, c'était le grand projet moderne. La modernité proposait à l'homme d'être enfin autonome. Donc, autrement dit, la modernité proposait l'accélération pour qu'on devienne autonome, et donc on en vient à un projet qui se contredit lui-même, en fait, puisqu'il finit par détruire l'autonomie. Et ce qui alimente tout ça, c'est le fait que tout soit rendu disponible. Au fond, pourquoi le temps accélère ? Parce que je peux avoir, avec Internet, accès à une somme de connaissances énorme, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis, j'ai une connexion de plus en plus rapide. Et puis, j'ai au lieu d'avoir 6 chaînes, voire même 2, voire même 3, j'en ai 150. Et puis, voilà, donc tout, j'ai une disponibilité de tout en permanence. Et donc, cette disponibilité, paradoxalement, elle nous empêche de jouir du monde, puisque comme tout est disponible, je veux profiter de tout et finalement, bah, je zappe, je profite de rien. Donc en fait, ce que propose Rosa, c'est de rendre le monde indisponible pour pouvoir entrer en résonance avec lui. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un être au monde, voilà, jouir de l'instant d'une certaine manière. Il faut retrouver, typiquement, voilà, il se fait à neiger, je ne peux pas aller au travail. Pour Rosa, c'est l'exemple même du moment où le monde est rendu indisponible. Il se met à neiger, je ne peux pas aller au travail, en plus, ma connexion Internet déconne. Bah, c'est le moment rêvé pour me reconnecter avec le monde. Comme le monde est indisponible, je peux pleinement en jouir. Donc, il faut retrouver un être au monde que la modernité nous a enlevé. Il faut donc non seulement ralentir, au contraire de ce que je suis en train de faire, il faut non seulement ralentir, mais en plus changer notre vision du monde. Sauf que cela suppose en fait une lutte contre la raison économique. Et donc c'est l'enjeu de cette dernière sous-partie, sortir de la rationalité économique. Donc on a vu l'importance de la raison économique dans le processus d'accélération du temps. Et ce qui fait sa dimension aliénante, c'est la tendance hégémonique de la raison économique. C'est-à-dire que la raison économique tend à s'étendre à tout. Parce qu'en fait, si on y réfléchit, la raison économique, à la différence du capitalisme, elle a toujours existé. Il a toujours existé un marché. Simplement, puisque le principe d'une... si on se met en société, c'est que chacun a quelque chose à échanger avec les autres. Simplement, ce marché n'était pas l'institution centrale de la société. La société ne tournait pas autour du marché. C'est-à-dire que, voilà, la mentalité de marché, elle suppose la raison économique. Sur le marché, on calcule, on échange rationnellement. Mais pendant longtemps, cette raison économique, ce marché, il a été limité. Et la raison économique a été limitée. Elle a été cantonnée. Alors, limitée par quoi ? Par des considérations morales. Non, je ne vais pas exploiter un faible. Il faut être charitable. Par des considérations esthétiques. Je veux jouir du monde. Qui peut être aussi une considération morale d'ailleurs. Par des considérations religieuses. Donc en tout cas, la raison économique n'envahissait pas toute la société. Et elle n'envahissait pas surtout le temps. Il existait avant l'émergence du capitalisme un temps traditionnel. On suivait le rythme. Le capitalisme, c'est le moment où la raison économique s'exprime sans entrave, colonise tout, y compris la pensée. Dès qu'on pense en termes de à quoi ça va me servir, est-ce que ça va en rapporter vraiment quelque chose de faire ceci ? Voilà. Donc, dès qu'on pense en ces termes, en fait, on est rentré dans la rationalité économique puisqu'on cherche à tirer profit de tout. Et cela nous semble une force insurmontable parce que toute notre vie y est soumise. L'accélération du temps, elle est indissociable de la colonisation par la raison économique des secteurs non marchands de la vie. Exemple de secteur non marchand, le secteur de la santé. Pour être plus précis, le secteur du soin. Ou le secteur de l'éducation. Ce sont normalement des secteurs non marchands qui se trouvent en fait colonisés par la raison économique. Et donc, pour se réapproprier notre temps, il faut sortir du tout marchand. Ça ne veut pas dire abandonner complètement le marché, mais le remettre à sa place, lui remettre des limites. C'est ce que propose Gortz dans le texte 10, qui est en fait une vulgarisation de la fin de Métamorphose du travail. C'est un article qui s'appelle « Bâtir la civilisation du temps libéré ». Donc c'est le texte 10 ou non, je sais plus, texte 10. On ne peut se rendre compte des limites de la raison économique que si notre vie n'est pas tout entière occupée par le travail, que si on n'est pas pressé par la montre. Donc il faut suffisamment, le premier point, c'est qu'il faut suffisamment de temps libre pour redécouvrir du non quantifiable dans nos vies. Tant qu'on n'a pas assez de temps libre, voilà, tant que le week-end est là uniquement pour, voilà, c'est la formule de Marx, hein, reproduire la force de travail. Voilà, tant que le week-end est là pour ça, eh bien, on ne pourra pas réintroduire du non quantifiable. Donc il faut d'abord avoir suffisamment de temps libre pour redécouvrir qu'il y a du non quantifiable dans nos vies. Donc forcément, ça impose une baisse du temps de travail, mais qui n'a de sens que si on repense le temps à côté du travail. Tant qu'on baisse le temps de travail pour faire des loisirs qui sont eux-mêmes soumis à la rationalité économique, ça n'a aucun sens. Donc, si la conception reste, des loisirs reste la même, à savoir reste une consommation, si on multiplie les emplois de services qui n'ont pas de sens pour gagner du temps et pour pouvoir, nous, qui avons la possibilité d'avoir recours à ces services, pour pouvoir en faire moins, donc on multiplie les livreurs Deliveroo, hein, puisque voilà, j'ai la flemme de marcher 50 mètres pour aller me chercher à manger, eh bien, tant qu'on est là-dedans, en fait, on va toujours dans une logique du gain de temps, et donc d'accélération du temps. Et donc, même avec une baisse du temps de travail, tant qu'on est là-dedans, la raison économique triomphe. C'est-à-dire qu'on cherchera toujours à avoir une disponibilité, et donc accrue des choses, et donc un usage du monde toujours plus grand. Avec la catastrophe, voilà, les consommations pléthoriques dont parle Gortz dans le deuxième paragraphe, voilà, avec la catastrophe écologique que cela implique. Donc lutter contre l'accélération du temps, c'est rendre le monde indisponible, et rendre le monde indisponible, c'est aussi mettre des limites à la raison économique. C'est à lui assigner sa juste place, qui a une place, mais qui est limitée. Donc, en fait, il s'agit d'articuler la dimension éthique, rendre le monde indisponible, qui est plutôt presque un travail sur soi. Voilà, ne pas s'agacer parce que le Wi-Fi est trop lent. Et une dimension politique. Et donc, autrement dit, sur le schéma de Rosa du texte 7, ça revient à couper les trois moteurs. Le temps n'est plus... Certes, le temps, c'est de l'argent dans certains domaines, mais il y a du temps non quantifiable, donc il y a du temps qui n'est pas monnayable. Il y a une promesse d'un contact avec le monde, donc un rapport plus sain. On arrête de vouloir vivre intensément et de vouloir accumuler des expériences sans cesse. Et en plus, comme on a le plus de temps, on a le temps pour les différentes fonctions qui cessent ainsi de se concurrencer. Je donne deux fois moins de cours, donc j'ai le temps pour ma famille et j'ai le temps de préparer la conférence. Tout va bien. Donc, on a pu voir que l'accélération du temps n'est pas ressentie alors que le temps objectif est régulier. Elle est rendue possible par l'imposition de ce temps régulier, quantifiable, à tous les domaines de la société. Ce qui explique que cette accélération du temps n'est pas que métaphorique, et qu'elle est du coup constatable. Elle est indissociable de la promesse d'autonomie de la modernité, mais elle finit par trahir cette promesse d'autonomie, et donc on peut conclure que face aux risques sociaux, politiques, écologiques, il s'agit de trouver le frein maintenant de l'accélération sociale. Alors une question demeure, qui reste ouverte, c'est que pourquoi cette question du frein de l'accélération sociale est-elle si peu reprise dans les discours politiques ? Je vous remercie.
Merci. Alors, les questions ?
qui nous a décrit beaucoup de choses sur le terme de temps, effectivement. Et quelque part, c'est venu, enfin, pour moi, détruire la notion que j'avais de le temps comme élément de mesure. Et donc, vous nous avez dit beaucoup de choses qui, les réseaux sociaux, les évolutions dans le quantitatif de ce qu'on fait du temps, comment on remplit son temps, comment on en met plus, on essaye d'en mettre moins, des choses, beaucoup de choses. Mais je suis un peu frustré sur la notion subjective du temps. Et je pense que je ne suis pas le seul. On a quand même, de façon personnelle, une notion d'accélération du temps qui est probablement dégagée de tout ce que vous nous avez dit. Parce que le temps étant, l'accélération étant une notion de différentiel, lorsque qui dit accélération dit différentiel, enfin voilà, changement de. Et je ne suis pas persuadé, enfin, il me semble qu'il y ait une hypothèse qui fait que ce n'est pas le temps qui accélère, c'est nous qui décélérons. Et qu'on n'est plus capable de suivre le même rythme que le temps. Et qu'on a l'impression que le temps accélère. Parce que nous, enfin, l'individu décélère.
Vous voulez dire dans l'histoire ou à l'échelle de la vie de l'individu ?
À l'échelle de l'individu, du métabolisme.
D'accord.
Par exemple, quand on voit chez un nouveau-né, enfin dans la petite enfance, la dynamique de croissance, enfin, de constitution, enfin de déploiement cérébral qu'il y a à ce niveau-là, et la notion de vieillissement vers lequel on va avec un ralentissement. On a l'impression qu'à ce niveau-là, il y a une décélération de rythme physiologique, individuel, et qui fait que c'est ce frein-là qui fait qu'on a l'impression que le temps, qui, pour moi, par mesure, est une mesure constante, accélère. Quelque part, je propose de regarder que ce n'est pas le temps qui accélère, parce que, bon, enfin, j'ai peut-être une notion trop scientifique de la norme que représente le temps. Mais c'est quelque part une perception qui nous. On décélère, et ce qui fait qu'on a l'impression que c'est le temps qui accélère, mais nous, on décélère. Et voilà. Bon, parce que je pense qu'on a un peu tous l'impression que le temps passe de plus en plus vite, plus on avance dans l'âge, plus le temps passe vite.
Alors.
Je suis même en dehors du problème. Je pense que pour moi, c'est pas. Bon, il y a la mort est présente,
alors, ça serait, en fait, si j'ai bien suivi, en fait, pour reprendre ce dont on parlait l'année dernière, ça serait un petit peu une vision un peu bergsonienne. Notre élan vital s'épuiserait à mesure. Et donc notre durée se désaccorderait de plus en plus. Alors, malgré tout, il y a une chose dont je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas beaucoup documenté, mais j'ai quand même. Il y a quand même une souffrance du grand âge, du quatrième âge, des personnes âgées qui ne voient personne, qui s'approchent de la mort, et pour qui le temps passe très lentement. Donc,
le temps, l'instantané passe très lentement, mais même pour eux, le temps passe. Par les témoignages que j'ai
et
très précisément exprimé. Les journées sont longues, mais le temps passe.
Et l'autre élément, c'est que à âge égal, dans des générations différentes, le rapport au temps est vécu différemment. C'est-à-dire que les jeunes de 20 ans ont l'impression d'avoir 1000 fois moins de temps que des jeunes de 20 ans d'il y a 20 ans.
Je pense que vous nous avez bien démontré qu'effectivement, dans cette enveloppe de temps, on y met beaucoup plus de choses maintenant, et donc on est.
Oui, mais donc ça veut dire que l'accélération n'est pas seulement liée à notre. Donc là, plutôt que notre mortalité, vous proposez notre vitalité. Ouais. Notre vitalité diminue, et donc on a du mal à faire face. Mais voilà, dans ce cas-là, ça voudrait dire que, quelque part, tous les individus de 20 ans devrait avoir à peu près le même rapport au temps à travers les âges, ce qui n'est pas le cas. Ou tous les envahis de 30, etc.
Analyser le sentiment des individus.
Voilà.
Des individus de 20 ans, est-ce que c'est que par rapport au temps?
Oui, mais ou même à... le travailleur dans la force de l'âge, paysan soumis au rythme de la nature, ne se sent pas pressé par le temps comme l'ouvrier à la chaîne des années 60. Ça, pour le coup, c'est assez dangereux. Donc, subjectivement, pour un même... Vous voyez, c'est pas seulement à l'échelle de la vie, c'est historiquement le temps accélère.
Moi, ce qui me gêne, moi, c'est l'expression accélération
oui.
du temps.
Oui,
ça me gêne parce que, en fait, là, j'ai bien suivi, il me semble avoir compris qu'il s'agissait surtout d'une accélération des rythmes sociaux.
Des rythmes, oui. De la société.
De la société, avec effectivement des techniques qui sont de plus en plus performantes. Et un accaparement de toutes les forces de l'individu dans ses activités. Enfin, je veux dire, là, une aliénation vraiment de plus en plus grande, ça, je l'entends bien. Mais ça, effectivement, peut se décrire objectivement. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est indéniable. Mais ce n'est pas le temps qui s'accélère. C'est le rapport au temps qui se modifie, fondamentalement. Et je pense aussi que cette analyse est juste. Et en même temps, elle n'empêche pas le fait que pour un individu qui est mortel, même si effectivement il est plongé dans une société qui est de plus en plus performante et où effectivement il y a une utilisation de plus en plus rationnelle, technique du temps, enfin bon, tout est calculé, quoi. Même avec ça, il n'en demeure pas moins que la perception du temps change au fur et à mesure de la vie, même dans une société comme ça, à partir du moment où on sait que la mort, elle n'est pas loin. Enfin, moi, je sais pas. Quand on est enfant, on a l'impression d'avoir tout le temps devant soi.
Ah, je sais pas. Quand j'étais en prépa, j'avais pas l'impression d'avoir le temps devant moi.
Non, j'entends bien. Mais ma vie, mon temps à moi, même si je suis en prépa et que j'ai beaucoup de travail, il faut que je le rende, ça, c'est autre chose. Ça, c'est d'un point de vue effectivement quantitatif qu'on se situe. Mais s'il s'agit de ma vie à moi, je n'envisage pas de la même manière quand j'ai 20 ans que lorsque j'ai, même si je suis très en forme, à un certain âge, que je ne dirais pas. Et donc, vous voyez, c'est quand même une modification qui tient tout simplement au fait qu'on sait qu'on n'a plus le temps. On n'a plus beaucoup de temps devant soi, même si on pense qu'on en aura pas mal encore.
Oui, mais là, tu te places dans une perspective où on peut envisager sa vie, où on a donc un projet de vie,
oui.
Ce qui, en fait, disparaît.
Ah oui, ça, effectivement, pris dans la machine, ça, je suis d'accord, on est absorbé.
Mais c'est toujours le rapport.
Oui.
Le rapport au temps. Et moi, je partage. Si c'était le temps qui s'accélérait, est-ce que la vie ne devrait pas se redresser? C'est-à-dire qu'on devrait mourir plus tôt.
Oui, oui.
Oui, oui. C'est pas le temps qui accélère.
Oui. Et d'ailleurs, Rosa préfère l'expression accélération du changement social.
Oui.
Accélération de la société. Après,
ça a des incidences considérables, c'est sûr.
Ça. Enfin, étant donné que, du coup, notre perception du temps en est totalement modifiée, moi, je trouve que l'expression « accélération du temps » restitue bien le phénomène de roue du hamster.
Parce que le temps est subjectif, donc...
Il est, ouais. Alors, c'est peut-être que je suis plus bergsonien qu'ancien, mais voilà.
Ce que tu as décrit, c'est une dépossession.
Oui.
Hein, c'est une dépossession de soi par un rythme qui devient de plus en plus infernal. Et bon, à la limite, ça me rappelait la distinction très traditionnelle, très classique entre deux types d'activités, le loisir.
Oui.
Où on dispose de soi et on est maître de son temps. On se réalise. Et puis effectivement, le travail productif, où là, on est asservi. On est asservi fondamentalement.
Oui, avec cette idée que le loisir lui-même est contaminé par cette
Alors, je parle du loisir au sens
aussi
de l'Antiquité, voilà. L'accomplissement de soi, pas les loisirs,
oui,
hein,
oui.
Bien sûr.
Oui, oui. Mais justement, et si on poursuit cette analyse, on constate quand même que cette conception du loisir, on l'a perdue.
Tout est fait.
Voilà, quand on parle loisir, on pense aller dans un parc d'attractions. On passe pas de disponibilité de soi. Et on l'a perdue du fait de tout ce dont j'ai parlé.
Je suis d'accord. Tout à fait.
Et la question, c'est peut-être que nous n'acceptons plus les limites que nous acceptions il y a encore un siècle ou deux. C'est donc probablement lié à ce rapport du temps entre le temps et l'argent, mais peut-être pas seulement le fait de plus supporter de devoir se heurter à ses propres limites, me semble-t-il.
Alors, on ne supporte plus de limites, mais justement, en fait, l'idée de dépassement de la limite et voilà.
C'est devenu un impératif.
Oui, mais il l'est depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. C'est-à-dire que c'est le propre, c'est ce que montrait le premier des textes de Gortz, que le texte, du coup, ça va être le texte 4, 3 ou 4. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on quantifie, on a fait exploser la notion de limite.
Oui.
Parce que la notion de limite, justement, c'est une notion. Quand j'en ai trop ou pas assez, voilà. Ou quand j'en ai trop plutôt, ou quand c'est suffisant, voilà, faut pas que j'aille plus loin. C'est une.
Toujours compter jusqu'à l'infini.
Voilà, si vous voulez. Et donc, de fait, du coup, cette volonté de dépassement des limites, elle est inhérente. Ah, donc ce que j'ai appelé la raison économique, mais la modernité, enfin voilà.
Est-ce que c'est pas simplement la différence entre le quantitatif et le qualitatif ? L'art, par exemple, c'est ce qui ne sert à rien, tant que c'est pas dans un circuit commercial. C'est la définition même de l'art.
On peut le formuler autrement, c'est-à-dire que je vais continuer à dire accélération du temps, parce que comme j'ai. Mais bon, après, voilà, il y a accélération sociale et il y a souffrance par rapport au temps. Donc il y a accélération du temps parce que on a absolument perdu toute notion de temps qualitatif. Si on peut le dire comme ça. Enfin, je sais pas si je réponds à la question. Et de fait, toutes ces activités qui ne servent à rien, il y a des très beaux textes d'Anna Arendt là-dessus, toutes ces activités qui ne servent à rien deviennent incomprises. Quand on fait la question à quoi sert l'art, hein, qui est une question très classique, toujours en classe, il y a toujours au moins 25% d'élèves, et encore je suis gentil, c'est plutôt 75%, qui disent ça sert à faire de l'argent. On va faire un tableau, on est puis je peins trois traits, je suis Picasso, je gagne des millions.
Et à quoi sert la philosophie ?
Oui, voilà. C'est ça. Quoi.
Non, c'est la question classique.
Oui. Voilà. À les occuper.
Et justement, nous nous heurtons de plein fouet à la question de la limite, avec les limites de la planète que nous sommes prêts à atteindre. Et certains sont dans le déni, genre Elon Musk. Alors je suis tout content parce que j'ai appris un mot là il y a trois jours, c'est un cornu copiant. Alors ça vient de cornu copiae, le latin qui veut dire corne d'abondance. Alors Elon Musk par exemple dit s'il n'y a plus de minerais sur la Terre, casse d'un pied, on va aller en chercher sur la Lune et puis ça nous permettra d'aller sur Mars, d'y habiter, etc. Donc c'est un cornu copiant. C'est un mot savant. Ça fait l'effet. Mais ça devient une vraie question. On va, on ne va pas pouvoir se dispenser tellement longtemps de la question de la limite, effectivement.
Mais c'est pour ça que ce soit Gortz, et je pense que Gortz ou Rosa, la problématique écologique, elle est centrale. Enfin, Gortz, c'est un des grands penseurs encore actuellement de l'écologie. Donc oui.
Et même la limite question de la charge mentale, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où les gens n'y arrivent plus.
Oui.
Donc ça continue à s'accélérer, mais en même temps, on sent bien que les gens sont...
Alors, il y a quand même des modèles d'accélération. Voilà, c'est le l'homme d'affaires qui prend son jet et qui va de continent en continent, et qui prend différentes substances pour pouvoir résister. C'est un modèle valorisé d'une certaine manière. Donc il y a une valorisation. Elon Musk en fait partie.
Elon d'affaires, il fait un infarctus.
Oui.
Mais que pensez-vous du projet de beaucoup d'entreprises qui consiste à établir la durée hebdomadaire du travail à 4 jours ouvrés?
Eh bien, alors... D'abord, la durée hebdomadaire restera la même. C'est dans tous les projets qui sont vendus actuellement, la durée reste la même. C'est-à-dire que c'est 35 heures plus sur 5 jours sur 4.
35 heures théoriques.
Oui, 35 heures théoriques. Ou 39. La plupart sont passées à 39. Donc, de fait, il n'y a pas de diminution du temps de travail. Et j'aurais tendance à dire que le faire passer sur 4 jours conduit à une compression du temps. Et donc, du coup, participe de l'accélération. On n'a pas du tout plus de temps.
On va passer le citron.
Voilà.
Oui, puis en week-end, on prend l'ordinateur.
Oui, oui.
Pour répondre.
Bah, en fait, c'est aussi... Faut surtout pas décorréler ça de la question du télétravail,
ouais.
qui brouille de plus en plus les limites de temps de travail, les limites de rapport privé-privé-travail, enfin, voilà. Et voilà.
Une des questions enfin, que tu as abordées, qui est très intéressante, et vraiment importante, c'est la question de la démocratie. La démocratie, oui. C'est de la perte de temps.
Mm-hmm. Oui.
C'est de la perte de temps, c'est de la désorganisation. Tocqueville montre très bien que la démocratie, d'abord, elle est communale. Elle est, c'est dans les communes, on délibère ensemble de tel ou tel projet, etc. Il y a une forte empoigne, on perd du temps, même on peut se tromper. C'est tout sauf le règne des experts. Alors effectivement, la quantification...
On l'a bien vu, quand même, un des arguments du gouvernement lors de la précédente réforme des retraites, c'était de comprimer le débat. On
oui.
peut pas débattre éternellement. Oui. Il y a trop d'amendements. Voilà.
Enfin, avancer.
Comment peut-on décortiquer l'expression donner du temps au temps?
Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux manières de la décortiquer. Il y a soit c'est une volonté, justement, en fait, comme toute expression, soit on la voit comme une volonté de sortie de la quantification. Voilà. Arrêtons de quantifier le temps, prenons notre temps. Voilà. Ça, c'est... Ou alors, à l'inverse, c'est une poursuite de la quantification de tout. Voilà. Et donc... ça peut, vous voyez, quand on dit à quelqu'un qui est en deuil, quand on voit quelqu'un est en deuil, faut lui donner du temps. Sous-entendu, il faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps, hein, parce que c'est un peu relou en ce moment. Vous voyez, donc donner du temps au temps, ça peut être vu de deux manières. C'est pas forcément positif. En fait, il peut y avoir une arrière-pensée très quantifiable et très proche d'une pensée accélératrice derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Sur les aides du frein.
Oui. C'était avant tout un jeu de mots.
Comment?
C'était avant tout un jeu de mots.
Ouais, mais même si je n'ai pas aucune proposition, je me demande si elle ne sous-estime pas la capacité d'adaptation des limites.
De la société, vous
voulez dire ?
Oui,
de la société.
Oui. Oui. C'est, bah, après, se dire qu'il n'y a pas de frein, c'est aussi partir perdu. Perdant. Enfin, c'est-à-dire que peut-être qu'on va. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais il faut essayer de trouver le frein quand même. Et c'est là où moi, ce qui m'interroge, c'est que cette idée de frein, elle est portée par les décroissants, et c'est tout. Alors que je pense qu'il y a d'autres manières de trouver le frein que la décroissance. Et en plus, du coup, ça fait très peu de gens, très peu d'individus. Et donc, les grands partis qui veulent sortir de la production capitaliste sont très peu dans cette idée de sortir de la rationalité économique. En fait, il y a tout le livre de Gortz est assez intéressant, mais il y a tout un passage de Gortz où il débat, enfin lui, il débat avec le marxisme, parce que, en fait, le communiste traditionnel, il ne va pas du tout être dans cette conception-là. Il est productiviste, et voilà, simplement, la production n'est pas administrée de la même manière. Et en effet, vu les dégâts que crée le rythme de vie donc sur la planète, mais aussi sur les individus, ouais. Je m'interroge sur l'absence de prise en charge politique de la question.
Ben, surtout, le problème, c'est la limitation de l'activité économique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, donner aux individus les moyens d'être des citoyens, donc du temps à perdre, et c'est du temps qui n'est pas rentable.
Et avec faire sortir certains domaines ne sont pas marchands.
Oui.
Et donc, du coup, marchandiser ces domaines, c'est aller dans le mur. Voilà. Le soin, l'éducation. Il y en a sûrement d'autres, oui. Mais les deux gros qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est le soin et l'éducation.
Qui sont pris dans la spirale.
Ouais. Oui, bah, clairement. Je parlais rapidement des réformes. Les réformes du baccalauréat et de Parcoursup conduisent à une conception mercantile de l'éducation. Avec notamment, en plus, des effets, par exemple, sur Parcoursup, de nombreuses écoles privées apparaissent, et même des écoles privées dont le diplôme n'est pas reconnu par l'État sont sur Parcoursup. Et, alors, vous imaginez, vous mettez-vous à la place d'un gamin de 17-18 ans, qui est dans cette jungle, qu'on des intitulés bien en Flandre.
Certaines écoles privées réalisent la compression du temps puisqu'ils proposent des parcours, par exemple, sur 6 mois pour ce qui se fait dans le public en 2 ans, hein, moyennant le finance, évidemment. Donc, c'est une façon, effectivement.
Oui. Ah oui. Et cette compression du temps, je parlais du télétravail est une manière de comprimer le temps, une manière dingue. Et étrangement, de à la fois le comprimer, puisqu'en fait, on peut enchaîner 5 réunions à la suite. Alors qu'avant, quand même, on devait se déplacer d'une pièce, on prenait une pause, etc. Donc voilà. Et en plus, à la fois, on comprime le temps et on augmente le temps de travail. Parce que, on ne fait plus de pause. Enfin, voilà.
La numérisation permet effectivement une accélération extraordinaire. Et un contrôle accru.
J'ai appris que donc maintenant nos copies de bac sont dématérialisées,
ouais.
Et l'inspecteur peut savoir le temps qu'on passe sur chaque côté.
C'était quoi ?
Après.
Je me souviens du temps de Mitterrand, on avait un ministère du temps libre. Et je me pose la question de savoir d'abord si on pouvait administrer le temps libre. En tout cas, symboliquement, il n'y a plus de ministère du temps libre. Donc, est-ce que c'est une démarche, disons, administrative, ou est-ce que c'est vraiment pensé comme il n'est plus nécessaire maintenant de donner du temps libre aux citoyens ?
Je dirais, tout comme, si vous voulez, Gortz s'appuie beaucoup sur un livre qui s'appelle La Révolution du temps choisi, qui est à peu près, je crois que c'est 78, La Révolution du temps choisi, donc. Quasiment même époque, ça a quand même été une volonté. Vous parlez de du ministère du temps libre sous Mitterrand, on peut parler du ministère des loisirs sous le Front populaire aussi. Voilà. Donc je pense que au moins ça a affiché une certaine volonté, peut-être qu'il n'était pas tenu jusqu'au bout, mais au moins une certaine volonté à un moment donné, peut-être que c'était pour donner des gages à l'électorat, hein, mais au moins une certaine volonté qu'il fallait se réapproprier le temps. Voilà. Ce dont clairement ce n'est plus du tout l'enjeu. Ce n'est plus du tout l'enjeu parce qu'on fait croire aux individus qu'ils sont maîtres de leur temps. Voilà, vous êtes en télétravail, vous gérez votre journée comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Et voilà.
Il y a plein de gens qui disent d'ailleurs qu'ils travaillent plus en télétravail.
Ah oui.
En fait, c'est prouvé apparemment qu'il n'y a pas d'interférence avec les collègues, qu'il n'y a pas des trucs et tout, il n'y a pas le petit café entre deux.
Et la pression est intériorisée. Et la pression est intériorisée, voilà. Donc elle est beaucoup plus terrible.
Avec en plus une culpabilisation que, en fait, on est en télétravail, on croit être chez nous, donc on va pouvoir faire 2-3 trucs à côté. Mais puis en fait, on a quand on fait le truc à côté, on se sent coupable parce qu'on devrait être au travail. Et puis comme on est au travail, on n'a pas eu le temps de faire les petits trucs qu'on avait prévus, mettre une lessive, et tant, voilà. Et donc du coup, on est doublement culpabilisé. Voilà.
Mais ça a des effets pervers aussi sur la façon même dont les parents éduquent parfois leurs enfants. Il ne faut pas laisser les enfants s'ennuyer, il ne faut pas qu'ils soient. Il ne faut pas qu'ils fassent cette expérience, il faut qu'ils fassent un tas de choses.
Alors, et quand ils s'ennuient, on les met devant la télé.
Oui, voilà, en fait, par exemple. Il faut qu'il, oui, alors déjà. Et puis même, il faut qu'ils passent un tas d'activités, parce qu'il faut rentabiliser tout de même le temps. Et puis, si on estime en plus que l'école ne fait pas l'affaire, alors là, on va en rajouter. Alors parfois, c'est très bien, hein, mais. Mais il y a cette espèce de volonté de rentabiliser, effectivement, le temps libre,
oui,
pour le rendre productif. Hein.
Quand on est en vacances dans un lieu, une journée où on n'aime pas une journée où on fait rien, on aimerait bien aller découvrir, il faut qu'on aille découvrir tel truc.
Voilà.
Et voilà. Mais oui, oui, il y a une éducation dans... Qui est aussi un sens de l'effort, qu'on donne, etc.
La pire des choses, enfin, c'est un peu le thème du divertissement, pascalien, mais la pire des choses, c'est l'ennui. C'est de se trouver devant un temps vide. Alors là, vraiment, c'est l'angoisse absolue, alors que c'est une épreuve extraordinairement formatrice.
Je pense que l'ennui doit être appris.
En tout cas, c'est une expérience à laquelle il faut être nécessairement confronté pour s'appréhender soi-même. Enfin, pas être tout le temps sur des rails, sinon on est tout le temps sur des rails.
Et on le voit. Alors, par exemple, on constate que le montage des films, les plans sont de plus en plus courts. Et voilà. Et quand on montre un film, quand on montre la nuit du chasseur, par exemple, aux élèves, donc 1938, je crois, ils trouvent ça lent.
Oui, bien sûr, ils sont. Bah oui, il faut du flash.
Il faut du Tarantino, quoi. Alors, je dis rien contre Tarantino, hein, c'est très bien, mais voilà.
Oui, en même temps, il y a quand même Korostaki, là, récemment, les plans s'étirent infiniment,
ouais,
c'est très beau.
C'est oui, mais en termes de moyenne. Le montage est de plus en plus nerveux. Parce qu'il y a une étude psychologique qui montre qu'au bout de 3 secondes, on se met à réfléchir et il ne faudrait surtout pas réfléchir. Donc c'est pour ça que, notamment que les émissions de divertissement les plus débiles, alors voilà, faudrait compter la durée d'un plan dans une émission d'Hanouna. Je pense qu'elle ne doit pas être bien longue.
Les films sont de plus en plus longs. Il y a une tendance à faire des films de 2h30, 3h.
Oui, mais si on fait un film de 2h30, 3h, ça existe quand même. Ça existe depuis un petit bout de temps, quand même. C'est-à-dire que assez vite, Naissance d'une nation, 1915, je crois que ça a duré combien de temps? 4 heures 4 heures, 5 heures? Voilà. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que la différence, c'est que dans un film de 3 heures aujourd'hui, il faut en mettre beaucoup. Justement, il ne va pas y avoir de... Voilà. Hormis, bien sûr, je pense à Terrence Malick qui fait des films de 3 heures où il y a beaucoup de contemplation, on est d'accord. Mais dans l'ensemble, si on a un film de 3 heures, il faut qu'il y ait de l'action.
Oui. Apparemment, lorsque les certains feuilletons, c'est plusieurs histoires qui sont présentées
même temps, de façon simultanée.
Oui.
On n'a pas seulement une histoire, mais il y a plusieurs histoires qui viennent de lui de près.
Oui.
On ne puisse pas, disons, se perdre dans une seule, mais automatiquement on passe à autre chose pour renouveler l'intérêt.
Oui, oui, c'est ça.
Et évoquer aussi les gens qu'on pénalise parce qu'ils ont du mal à être dans cette société où il faut aller comme ça. Donc,
oui.
Les bénéficiaires du RSA, les recherches d'emploi, enfin, voilà, tout ce qu'on limite.
Oui, tous les, entre guillemets, improductifs.
Voilà, c'est ça.
Ils gâchent leur temps. On est dans une éthique...
Voilà, qu'on ne supporte pas, ils doivent rentrer dans la machine aussi.
Oui. En faisant abstraction de toutes les études qui ont été faites sur le chômage depuis les chômeurs de Marienthal, qui montre qu'en fait la souffrance temporelle elle est avant tout du côté du chômeur, quoi qu'il arrive, temporelle, sociale, à tous les niveaux. Il y a une... voilà.
Ce qui serait pas tant philosophiquement de sécuriser le caractère immuable du temps, parce que à vouloir le malaxer, à vouloir le remplir, à vouloir vérifier ses accélérations, on gagnera pas, il va nous échapper. Je veux dire, à un moment donné, le temps, il faut que les gens prennent conscience que le temps
est
constitutif. On a tout intérêt à ce que ça soit un référentiel immuable, de façon à pouvoir éviter de se laisser emporter par tout ce que vous nous avez dit.
Mais le problème, c'est que c'est quand il devient un référentiel immuable que tout ça se met en route.
Mais si c'est malléable, on mettra
ça. Les années, elles ont toujours 365 jours. Hein.
Mais oui,
elles n'ont pas été diminuées.
À un moment donné, il faut
une fois tous les 4 ans.
Oui.
Là,
je
ne
sais pas s'il y a une certaine sagesse à ramener à ça. La philosophie au sens de la sagesse, enfin voilà, une sorte de dire faites ce que vous voulez, voilà, messieurs les capitalistes, faites ce que vous voulez. À un moment donné, la réalité.
Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que le temps subjectif ou que le temps interne, la durée, comme pour ceux qu'ont lu Bergson l'année dernière, voilà, on ne peut pas dire que ça serait moins réel que le temps objectif. Il y a même certaines pages de Bergson, alors je ne veux pas prendre position dans le débat là, il y a même certaines pages de Bergson qui dit que le temps objectif, il dérive du temps interne. En fait, c'est juste que on a tous notre temps interne, mais on doit bien vivre ensemble. Donc pour vivre ensemble, on va mathématiser un peu le temps, mais la réalité du temps, elle est originellement, elle vient originellement de notre temps interne. Vous voyez, parfois j'ai une heure de cours, mais parfois mon propos il mériterait une heure et quart, ou il mériterait 45 minutes. Mais donc du coup, s'il mérite une heure et quart, je suis obligé de l'interrompre. Mais donc dans ce cas-là, le temps interne de mon cours, il devrait durer une heure et quart. Et je suis obligé de le contraindre par rapport à un temps objectif, parce que si je commence à prendre une heure et quart, mon collègue de maths va pas être content. Voilà.
Universellement admis, finalement, un découpage de durée, sur lequel on se fait tous d'accord.
C'est le temps astronomique.
Oui. Oui, oui.
C'est celui sur lequel on s'est toujours mis d'accord. Voilà. À partir de là.
Mais voilà, enfin, ce que dit Bergson, c'est qu'il a.
C'est ça. C'est une espèce d'accord tacite entre tous les.
Alors, je ne serais pas d'accord avec le essentiellement.
Pas essentiellement. Non, essentiellement. Dans la conception que l'on a, effectivement. Bah,
en quoi ce serait plus important que notre temps ?
Oui, mais en même temps, il y a des choses qui s'imposent à nous. On choisit, enfin, notre temps, bien sûr, une durée, mais enfin, il se trouve qu'il y a tout de même un processus objectif que nous ne pouvons pas, sur lequel nous n'avons pas prise, que nous ne pouvons que constater.
Mais le temps, c'est le battement de notre cœur, c'est le rythme de nos viscères, les neurones, leur rythme, c'est ça le temps. C'est pas autre chose que ça.
Donc là, ça serait Bergson. Ça, c'est ce que, globalement, en gros, c'est ce que dit Bergson. Mais qu'est-ce qui serait
J'allais en ce sens.
Ouais. Oui, d'accord.
Voilà.
Mais donc ça, oui, c'est objectif, mais c'est en nous.
C'est en nous et on peut penser que c'est l'univers lui-même. Enfin, ça c'est...
Mais cela dit, la tendance actuelle, le grand fantasme contemporain, c'est quand même un peu l'immortalité. Il y a des tas de grandes entreprises qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent là-dessus, et le temps va se suspendre.
Transhumanisme ?
Oui. Alors, la distinction qu'on fait souvent, c'est que l'éternité n'est pas l'immortalité. L'éternité, c'est la suspension du temps. L'immortalité, c'est le repousser, voire dépasser la mort. Cependant, cette distinction-là, elle a été faite à une époque où l'immortalité était très théorique.
Les théories transhumanistes sont d'une pauvreté.
Oui. c'est très.
Oui, non, mais ça fait travailler, effectivement, oui. Mais ce serait pour une petite élite qui, elle, effectivement, arriverait à se prolonger, quoi. Mais...
À prolonger d'abord, enfin, l'immortalité au sens supprimer la mort paraît.
C'est complètement hallucinant.
Avec, voilà, cette phrase de Groucho Marx, l'éternité c'est long, surtout vers la fin.
Woody Allen, je pense.
Woody Allen, c'est pas Marx, c'est pas Groucho.
Non, Woody Allen, je pense. Une question ?
Si vous voulez approfondir la question, dans les deux livres de Rosa, il y a Le Gros, où il rentre quand même dans des débats.
Comment il s'appelle, dis-moi.
Le Gros s'appelle Accélération. Mais il rentre dans des débats vraiment pointus, puis dans des débats qui sont propres, à mon avis, à l'université allemande. Donc c'est pas toujours.
Ah oui.
Celui-là est beaucoup plus accessible, c'est Aliénation et Accélération.
Il est plus court.
Il est plus court, donc on peut le lire plus vite.
On peut faire plus de choses.
Voilà, faut rentabiliser le temps. Voilà. Et je le conseille, il se lit très bien. Voilà. Et sinon, voilà, il y a le livre d'André Gortz qui est Métamorphose du travail. Alors, qui n'est pas directement sur le temps. Hein, c'est-à-dire que le temps est une, c'est vraiment sur le travail. Mais il s'en travaille sur le travail et ça montre les conséquences qu'il peut y avoir sur le temps, sur la planète. Voilà.
Il parle pas d'accélération du temps.
Non, il dit accélération de la sociale.
Ah, ouais. Ah ouais.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Rosa préfère le terme d'accélération sociale. Ouais. Après, de temps en temps dans le livre, il y a le terme accélération.
Oui, non, c'est pour ça que c'est quand même plutôt une métaphore, malgré tout. Bon, on te remercie en tout cas.
Et puis, merci à vous.
On te revoit.